De Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Comment aider l'Ukraine? Question à la une, comme tous les matins, depuis 15 jours de guerre. Comment aider un pays où les Russes bombardent des hôpitaux, comme hier à Mariupol? Les 27 chefs d'État européens en parleront à partir d'aujourd'hui à Versailles. Et vous Nicolas, c'est avec un ministre que vous en parlerez dans 20 minutes.
Le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, invité du grand entretien à notre micro avec Léa vers 8h22. Vos questions, vos réactions, amis auditeurs. 01 45 24 7000.
Comment aider les Ukrainiens en les accueillant, mais pas n'importe comment, s'inquiète le gouvernement. Et comment faire face aux nouvelles pénuries de composants pour les industriels qui les importent d'Ukraine? Les usines Michelin tournent au ralenti en France. À la une ce matin, il y a aussi la retraite à 65 ans. Ce sera bien dans le programme du candidat Macron. La Corse, situation proche de l'émeute. Selon le procureur d'Ajaccio, la nuit a encore été chaude, une semaine après l'agression d'Ivan Colonna en prison. Et puis le PSG qui se ramasse au match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le Real Madrid renvoie les Parisiens à leurs doutes et aux vestiaires.
France Inter.
Comment Vladimir Poutine peut-il répéter que les civils ne sont pas visés par son armée en Ukraine quand tous les jours les bombes pleuvent sur des immeubles d'habitation, quand l'OMS recense 19 attaques contre des établissements de soins? Dernier en date hier, à Mariupol, un hôpital pour enfants bombardé, 17 blessés. Un crime de guerre pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Les occupants ont laissé tomber des bombes de 500 kilos sur nos villes ukrainiennes, et cela fait plusieurs fois. Une maternité, un hôpital pour enfants. En quoi était-il une menace pour la Fédération de la Russie? Européens, Ukrainiens, habitants de Mariupol, aujourd'hui nous devons être unis dans la condamnation de ce crime de guerre de la Russie qui reflète tout le mal que les occupants ont ramené sur notre terre.
Voilà, des bombes contre des civils dans une ville assiégée à Mariupol. Le maire de la ville parle de 1200 morts depuis 9 jours. Qu'il n'y en ait pas eu hier dans cet hôpital pour enfants relève du miracle, Virginie Pierronon.
Sur des images diffusées sur Internet par le journal Kyiv Post, l'hôpital de deux étages ravagé par les bombardements. Voitures calcinées, la place est jonchée de poussière et de débris. La ville de Mariupol vit sous les bombardements depuis le 24 février, d'abord épisodique puis permanent. Ces derniers jours, c'est un tapis de bombes, roquettes multiples et missiles de croisière qui s'abattent sur les habitations. Plus d'eau ni d'électricité et de réseau mobile. Quelques heures avant le bombardement, le maire de la ville, Sergei Orlov, tirait la sonnette d'alarme.
Depuis 5 jours, nous essayons d'évacuer Mariupol à travers un corridor humanitaire. Et qu'est-ce qu'on voit ? On a fait le calcul, la moitié de la population de la ville, 200 000 personnes, sont dans une situation désespérée et souhaitent quitter la ville. Et on ne peut évacuer que 6 000 personnes par jour.
Des personnes évacuées qui risquent leur vie sous les tirs de l'armée russe. Selon l'ambassadeur de Russie en France sur BFM, le bombardement de l'hôpital pédiatrique n'a rien à voir avec l'armée russe. Il pointe du doigt, je le cite, les nationalistes ukrainiens.
Et l'on se demande à quoi ressemblera aujourd'hui le premier face-à-face entre les ministres russes et ukrainiens des affaires étrangères. Ils doivent se parler à Antalya, en Turquie. Il y a quelques jours, l'ukrainien traitait son homologue russe de Ribbentrop, contemporain du nom du ministre d'Hitler.
Il est 8h04, l'autre grand rendez-vous diplomatique aujourd'hui et demain, Florence, c'est le sommet européen de Versailles.
Les 27 chefs d'État et de gouvernement face à la guerre de Poutine en Ukraine. Comment faire plier le chef d'Ukraine? Comment avancer sur la défense européenne et comment se passer du gaz, du pétrole et du charbon russe? Angélique Bouin, bonjour.
Bonjour.
Voilà pour les enjeux de ce sommet.
En moins de 2 semaines, les 27 ont eu une réponse rapide et très unie face à la Russie. Ils veulent donc maintenir la pression et n'excluent pas de nouvelles sanctions. Mais iront-ils jusqu'à décréter un embargo sur le gaz et le pétrole? Sans doute pas. Certains États poussent pour fixer à minima une date limite pour cesser d'en acheter, mais le sujet divise et il faut continuer à jouer collectif, tempère l'Élysée. Au menu des échanges, il y a donc plutôt les pistes de la Commission pour renforcer au plus vite leur autonomie énergétique, développer l'hydrogène, le biogaz, accélérer la transition climatique. Les 27 vont aussi s'engager à augmenter significativement leurs dépenses en matière de défense et à renforcer leur autonomie dans des secteurs clés, dont l'agriculture. Avec quel argent? Sur la pointe des pieds, tant le sujet est sensible, la France devrait proposer un second plan européen de relance.
Il sera aussi question, Angélique, de cette demande de l'Ukraine, une adhésion accélérée à l'Union européenne. Est-ce que c'est envisageable?
Non, là aussi, il n'y a pas de consensus et pas question de briser l'unité. Mais dans l'attente d'une décision qui peut prendre des années, il y a d'autres formes de partenariat à inventer, dit l'Élysée. Un renforcement de la coopération dans le domaine économique, par exemple, doublé d'un rapprochement politique. Avant d'adhérer à l'Union, il faut un minimum de critères communs dans l'intérêt de tous, car une fuite des Ukrainiens les plus qualifiés ne serait pas non plus, nous dit-on, dans leur intérêt.
Voilà, l'Europe discute ce sommet, débute ce sommet à 17h30 à Versailles. Merci Angélique Boin. Pendant ce temps-là, les États-Unis s'apprêtent à signer un très gros chèque à Washington. Cette nuit, la Chambre des représentants a voté une enveloppe de 14 milliards de dollars pour l'Ukraine. Et question dépendance, on mesure depuis la pandémie de Covid les écueils de la mondialisation des semi-conducteurs qui n'arrivent plus d'Asie et désormais des composants qui manquent dans les usines parce qu'on les achète à la Russie ou à l'Ukraine. Chez Michelin, une dizaine de sites en France tournent au ralenti, comme à Cholet, en Maine-et-Loire, où s'est rendue Mariam El Kurdi.
La journée paraît presque normale aujourd'hui dans l'usine de 250 000 m2. Sur des tapis roulants, des cylindres métalliques suivent leur trajectoire. Et pourtant, la situation actuelle n'a rien d'habituel. Depuis la semaine dernière, l'usine a dû fermer 4 jours et va encore fermer 3 jours pour ralentir la production à cause d'un manque de matières premières.
On avait des camions de noir de carbone qui étaient prévus d'arriver, qui ne sont pas arrivés.
Benoît Cher, un des responsables de l'usine, le noir de carbone dont il parle est un composant essentiel à la fabrication des pneus Michelin. Sauf qu'il provient en partie de Russie et d'Ukraine.
Dès qu'il nous manque un composant, on ne peut pas produire. Ça fait 60 000 pneus qu'on fait en moins. C'est toujours très perturbant.
Très perturbant aussi pour les 1 200 salariés. Pas de chômage technique, mais des jours de congés prélevés. Arthur Bouillet, conducteur de machine, se montre résigné.
Il n'y a pas le choix, en fait.
Pas le choix. Arnaud Durmois, délégué CGT, n'est pas de cet avis.
On trouve pas ça normal que Michelin fasse des bénéfices et que dès qu'il y a une crise, ce soit les salariés qui en pâtissent. Et au lieu de nous mettre en chômage partiel, ils nous prennent des JDA, des jours de congé.
D'où la réunion de crise prévue ce matin entre la direction et les syndicats à Cholet. Sur le plan national, réunion prévue dans les prochains jours pour parler des solutions alternatives. Sur la table, l'importation de composants de Chine ou d'Afrique du Sud. Par avion.
Mariam El Kurdi, en France, la guerre, c'est aussi l'accueil de quelques milliers de réfugiés ukrainiens pour l'instant. Au-delà des initiatives locales, le ministère de l'Intérieur installe aujourd'hui pour ça une cellule de crise, car le gouvernement veut garder la main, Maxence Lambrec, et se méfie de l'accueil direct chez les particuliers.
On ne s'improvise pas, hébergeur. L'alerte émane du ministère de l'Intérieur. La vie en colocation entre Français, c'est déjà pas facile, alors accueillir chez soi une femme, ses enfants qui ont vécu des traumatismes par le peine anglais, ça demande un accompagnement. Chaque proposition d'hébergement sera expertisée sur la place Beauvau, avec toujours une association pour intermédiaire. Il faut que les réfugiés puissent alerter si ça se passe mal. Des travailleurs sociaux pourraient faire des visites à domicile. Le gouvernement finalise en ce moment un cahier des charges précis car certains ne mesurent pas l'engagement que ça représente, glisse un conseiller. Avec en 3 jours, 20 000 propositions d'hébergement sur la plateforme du ministère qui ouvre donc aujourd'hui sa cellule de crise et reconnaît ainsi que ce défi de l'accueil va se poursuivre, s'amplifier. 6 500 Ukrainiens sur le sol français hier, une partie en transit, une autre chez des amis de la famille. Ils sont 2 400 à être hébergés avec le dispositif Premier Accueil. Situation sous contrôle, assure la place Beauvau qui a organisé l'an dernier l'arrivée de 4 200 Afghans. Aucune estimation ne circule cette fois-ci sur le nombre de réfugiés potentiels.
Des réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre, comme avant eux, les Afghans, les Syriens ou les Kurdes, on les appelait plus volontiers des migrants, et certains n'en voulaient pas, comme Robert Ménard, le maire de Béziers, décidément à contre-emploi dans son rôle de figure de l'extrême droite. Hier soir, il a fait son mea culpa.
Je vais plaider coupable. J'ai dit, écrit, publié à Béziers un certain nombre de choses, par exemple, au moment des combats en Syrie et en Irak et l'arrivée des réfugiés chez nous, que je regrette, que j'ai honte d'avoir dit et fait. Parce que c'était pas bien. Parce que moralement, c'était pas bien, qu'il n'y a pas deux sortes de victimes. Il n'y a pas des Européens chrétiens qu'il faudrait défendre et puis des gens qui ne sont pas Européens, qui seraient au Moyen-Orient et qui seraient musulmans, qu'on aurait eu raison de ne pas accepter chez nous. Je crois que cette attitude-là, c'est une faute.
Voilà, Robert Ménard qui plaide coupable, c'était sur LCI hier soir.
La politique aujourd'hui, 8h10, c'est aussi cette proposition qui figure dans le programme d'Emmanuel Macron.
La retraite à 65 ans, c'est confirmé par le porte-parole du gouvernement ce matin. La réforme irait donc plus loin que celle qui a fait pchit pendant le quinquennat, Fabien Cazot.
Plus question de système à points ni d'instauration d'un âge pivot pour pouvoir partir à taux plein. Emmanuel Macron souhaite actionner un levier simple, facilement compréhensible par tous, celui de l'âge légal de départ en retraite. Il passerait, s'il est réélu, de 62 à 65 ans, une hausse plus forte que lors de la réforme de 2010 qui n'avait relevé l'âge légal que de 2 ans, au même rythme que celui envisagé aujourd'hui, 4 mois supplémentaires travaillés par an. En choisissant de porter le curseur à 65 ans, Emmanuel Macron opte pour le scénario suisse de rapporter le plus aux finances publiques, à terme 15 à 20 milliards par an selon les partenaires sociaux lorsque la réforme produira ses pleins effets au bout de 10 ans, de quoi financer plus facilement une réforme de la dépendance et du grand âge promise depuis 3 quinquennats. De son côté, Valérie Pécresse opte elle aussi pour un report de l'âge légal de départ à 65 ans, pour Éric Zemmour ce serait 64 et pour Jean-Luc Mélenchon, un retour à 60 ans.
Fabien Cazot, en Corse, une nouvelle soirée de violence et une situation proche de l'émeute. Selon le procureur d'Ajaccio, des rassemblements ont encore une fois tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre une semaine après l'agression d'Ivan Colonna en prison. Des manifestants se sont introduits dans la nuit dans le palais de justice d'Ajaccio. Des départs de feu ont noirci la façade. À Calvi, des cocktails Molotov ont été lancés contre la sous-préfecture. À Bastia, 23 CRS ont été blessés. Plus de passe vaccinal à partir de lundi. L'immense majorité des Français de toute façon est vaccinée. Mais il en reste 5 millions qui n'ont pas sauté le pas. Des réfractaires que le gouvernement tente encore de convaincre avec l'arrivée du Novavax, vaccin traditionnel sans ARN messager. La France en a commandé 1,5 million de doses réparties dans des centres de vaccination bien ciblés, comme celui de Sainte-Geneviève-des-Bois en Essonne où s'est rendu Marion Ferrer.
230 créneaux ont été réservés cette semaine. Le Novavax a permis de relancer l'activité de ce centre de vaccination. Le seul, en Essonne, a proposé ce vaccin traditionnel. Et certains viennent parfois de loin pour obtenir un rendez-vous.
Une personne venait du Pas-de-Calais. Là, oui, il y avait vraiment la volonté de l'avoir.
Franco Netto est le responsable du centre et il constate beaucoup de méfiance de la part de ses réfractaires.
On nous demande, est-ce qu'on peut voir le flacon? Alors comme je pense dans tous les centres, on prépare les vaccins à l'avance, mais ils veulent vraiment être sûrs que c'est bien le Novavax qu'on va leur injecter. Alors on leur montre une petite étiquette qu'on colle sur les petites boîtes où on ramène, qui est bien marqué Novavax.
Alors pourquoi se faire vacciner maintenant, après 2 ans de refus? Catherine, 73 ans, attendait un vaccin classique. Surtout, elle est convaincue que le pass vaccinal va revenir.
Je ne voulais pas me faire vacciner par les autres vaccins. Bon, je n'ai pas spécialement peur des vaccins, j'ai peur des faux vaccins. Et moi, j'ai été privée de beaucoup de choses. Sans être vaccinée, on ne pouvait plus rien faire. Macron, il a bien dit qu'il allait emmerder les Français. Ben, je vais retrouver une vie... un peu plus habituel.
Le centre de vaccination de Sainte-Geneviève-des-Bois restera ouvert au moins jusqu'au printemps afin d'assurer l'injection des deuxièmes doses de Novavax.
Lui refuse catégoriquement de se faire vacciner. Pas de vaccin, pas de tennis aux États-Unis pour Novak Djokovic. Il annonce donc qu'il ne jouera pas les tournois d'Indian Wells et de Miami puisqu'il ne pourra pas entrer sur le sol américain. Au PSG, la fin de saison sera difficile car Caramba s'est encore raté pour les Parisiens en Ligue des Champions. Pas de quart de finale. L'aventure s'est une nouvelle fois arrêtée au match retour des huitièmes alors que l'aller était gagnant, comme en 2017 et comme en 2019. Cette fois, c'est le Real Madrid qui assure la remontada grâce aux 3 buts de Benzema, score final 3-1. Et immense déception pour les supporters parisiens, quoique habituel à force.
Dépité, mais on a l'habitude. C'est moins dur que les années précédentes tellement on a l'habitude de perdre. Mais on a donné le match, bêtement. Chaque année, on y croit, comme des idiots. Chaque année, c'est la même histoire. Et là, effectivement, c'est un peu un tournant. Mbappé qui va partir. Je ne vois pas comment il peut rester dans ces conditions. On a deux semi-retraités, des sénateurs, qui font plus de différence. Idéalement, il faudrait tout changer, mais c'est très, très compliqué.
Ouais, pas facile d'être supporter parisien. Image de Samir à la sortie du stade au micro de Cédric Guillou. Enfin, c'est la révolution qui stimule le marché de l'art en ce moment. Les NFT débarquent dans les maisons d'enchères françaises. Ces œuvres numériques certifiées qui font le bonheur des spéculateurs. Fauve Paris est la première maison à organiser une vente publique aujourd'hui grâce à une nouvelle loi qui l'autorise. Et Amélie Perrier est allée voir à quoi ça ressemble.
Quand on entre, pas de tableau accroché au mur, mais des écrans où Lucie et Léonore Yvron, qui dirigent la maison d'enchères Fauve Paris, diffusent des œuvres numériques.
Ce sont des œuvres conçues par et pour des écrans. Donc ça peut être aussi bien des photos que des animations 3D, que de la vidéo. En tout cas, ce sont des choses qui ne sont pas physiques.
pas imprimées, et parfois qui s'accompagnent de musique. À ces œuvres sont adossés les fameux NFT, des certificats d'authenticité. Jusqu'à présent, les artistes avaient du mal à les commercialiser, puisque par définition, une image numérique est reproductible à l'infini. Donc, le NFT permet de donner un acte de propriété d'une œuvre numérique, donc de lui donner de la rareté, donc de la valeur, donc d'en permettre la commercialisation. C'est ainsi qu'un artiste comme Beeple a pu vendre il y a un an une composition à près de 70 millions de dollars. Beeple présent dans le catalogue de la vente de Lucie et Léonore Yvron, mais elle assure qu'il ne s'agit pas que de spéculation.
Moi, je parle d'œuvres d'art, je parle d'artistes, je parle de collectionneurs, de collectionneuses. La technique, quelque part, on s'en fiche. Le NFT, c'est un moyen, c'est seulement un moyen pour donner de la valeur et pour permettre la diffusion et la commercialisation des œuvres d'art numériques, pour offrir une reconnaissance aux artistes.
47 œuvres numériques sont en vente aujourd'hui et les estimations vont de 500 à 260 000 euros.
Et ben voilà, si vous avez le portefeuille et que ça vous tente, cette première vente aux enchères de NFT en France aura donc lieu à 19h chez Fauve Paris.
Merci Florence Paracuelos. Marie-Pierre Planchon pour la météo.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Marie-Pierre, contraste entre l'Est et l'Ouest.
Et oui Nicolas, comme le ciel est dégagé à l'Est, il gèle encore. Il fait moins 4 sur les Ardennes, moins 3 à Mulhouse, alors que sous la perturbation qui a gagné la moitié Ouest, on relève 10 au Havre ou à Bordeaux et déjà 13 à Saint-Jean-de-Pied-de-Port dans les Pyrénées-Atlantiques. Et côté ciel, c'est donc très nuageux sur le Cotentin en descendant sur le Poitou aux Pyrénées avec de la neige des 1600 mètres. Et puis sur le golfe du Lion, le vent d'OTAN apporte toujours de l'instabilité avec des pluies jusqu'aux Cévennes alors que sur la moitié est, eh bien, le soleil est au rendez-vous.
Et la perturbation va avancer un peu plus vers l'est cet après-midi.
Oui, et elle gagnera la Normandie jusqu'au Limousin, à l'Auvergne, au sud-ouest, d'ailleurs sous des orages et de la neige sur les Pyrénées des 1600 mètres. Mais à noter que les éclaircies seront de retour sur la Bretagne et sur le Languedoc-Roussillon. Le vent d'OTAN va toujours pousser ces nuages maritimes jusqu'aux Cévennes, dans des pluies. Et avec l'anticyclone qui résiste encore, le soleil sera généreux sur la moitié est jusqu'à la Corse sous des températures dignes d'un mois d'avril. Il fera 12 à Lorient, 14 à Tours comme à Nîmes. On attend 15 à Rouen, Bordeaux ou Ajaccio. Vous aurez 16 à Strasbourg comme à Marseille et Mâcon ou Cucugnan. Il fera 17 à Paris, Besançon, Andaille, Lille, Bourges et on attend jusqu'à 19 à Canet-en-Roussillon.
Et voilà qui est très complet. Merci Marie-Pierre. France Inter, 8h10.